Bienvenue dans cette machine à café édition spéciale. Antonine Iaccarini est analyste politique. Salut!
Bonjour, bonne année! Bonjour,
ouais, oui. 7 heures, c'est-tu trop de bonheur pour toi, ça?
Ah non, c'est l'idéal, ça.
Ah ouais, hein?
Ben oui, je pense pas mal sûr que mon fils n'est même pas levé à cette heure-là. Mon chum va faire les lunchs, tout ça, c'est parfait.
C'est parti la job du matin.
Écoute,
au revoir!
Au revoir! Et là, je reviens comme un rayon de soleil tantôt, juste pour aller faire le lift à l'école. Parfait!
C'est beau, ça. Pas de trafic.
Pas de trafic. Hey, écoute, ça va bien.
À retenir, Joanie, Antonine, 7 heures.
C'est
on va commencer avec cette grosse nouvelle. Ça date d'hier. Ça a été une autre rough journée au bureau pour Justin.
Et puis quand on a commencé, juste avant qu'il commence à parler, Joanie et moi, on était ici en studio puis on suivait son point de presse en direct. Les feuilles partaient au vent.
Oui!
Les feuilles de son discours s'envolaient de son lutrin avant que lui sorte. C'était un moment assez cocasse. Donc, il s'est présenté hier devant la presse pour annoncer qu'il quitterait son poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre du pays, mais pas tout de suite parce que, bon, ça a commencé par le fait que le Parlement est prorogé jusqu'au 24 mars, c'est-à-dire que la session parlementaire en cours est terminée. Tous les travaux parlementaires comprenant les projets de loi en cours sont donc suspendus jusqu'à l'ouverture de la nouvelle session. La démarche doit laisser le temps au Parti libéral du Canada de se trouver un nouveau chef à qui Justin Trudeau va laisser sa place avant de déclencher de très probables élections fédérales. Plusieurs ont pris le temps de saluer l'engagement de Justin Trudeau pour ses 9 années à la tête du pays. Je pense que c'est 16 ans au total d'engagement politique, notamment François Legault, le premier ministre du Québec, qui dit « Bien que nos opinions aient souvent divergé, je veux saluer aujourd'hui le service public de Justin Trudeau et son engagement envers le Canada. »
Bon. Antonine, qui est analyste politique, j'aurais tendance à te poser une première question. Là.
Vas-y.
Proroguer le Parlement.
Proroger.
Quoi, c'est ça? Ça, c'est quoi, ça?
On ferme le Parlement. C'est pas compliqué, là. Dans le fond, on s'encombre pas des oppositions. Il n'y a pas de travaux parlementaires. Il n'y a pas de période de questions. Il n'y a pas de vote.
Hein? Pas de comité.
Pas de comité. Il n'y a rien. Donc, on met un peu tous les projets de loi à zéro. Donc, tout ça, ça s'en va dans des chiqueteuses. Puis, si... ils reviennent, ça devrait être le cas de revenir autour du 24 mars, on va faire un nouveau discours du trône. Donc, on va sortir notre gouverneur général, là, on va la chercher, on va la mettre sur le trône, puis elle va faire un discours écrit là, par l'équipe de Justin Trudeau pour relancer la nouvelle législature comme telle. Donc, pourquoi il fait ça, d'après vous? C'est parce qu'il ne veut pas se faire renverser avant la fin de cette course à la chefferie qui vient de se déclencher au Parti libéral du Canada. Parce que, rappelons-le, Pierre Poilievre, et maintenant aussi le Bloc, et même le NPD, là, je le mets un peu à part, étant donné que je les crois à moitié, là, qui vont faire renverser le gouvernement, veulent voter très rapidement sur une motion pour renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Un gouvernement minoritaire a besoin de la confiance d'une majorité de députés à la Chambre des communes pour pouvoir continuer de gouverner. Donc, s'il n'y a pas de vote, ben il n'y a pas de renversement de gouvernement. C'est pratique, non?
Ouais. Mm. Mais en fait, là, si je comprends bien ce que tu dis, tu es en train de me dire là, que jusqu'au 24 mars, là, il ne se passera rien?
Il ne se passera rien. Par contre, il y a le Conseil des ministres qui existe toujours. Justin Trudeau est encore premier ministre. On appelle ça, dans le langage politique, un canard boiteux, là, quelqu'un qui n'a plus beaucoup de légitimité, pas beaucoup de pouvoir d'action à l'heure actuelle. Là, depuis qu'il nous a annoncé qu'il partait dans 3 mois, en théorie, on a un canard très, très boiteux. Là, il boite des deux jambes, là, présentement. Donc, et en plus, ça crée une situation un petit peu particulière d'avoir un premier ministre qui décide de rester pendant une course à la direction. D'habitude, quand il y a une course à la chefferie dans un parti, on nomme un chef par intérim. C'est pas pour rien, là. C'est parce que c'est malaisant en tabarouette de faire une course à la chefferie quand tu as ton ancien chef à côté de toi. Tu veux te démarquer. Là, les candidats, hein, ils vont vouloir se donner un bras de distance face à Justin Trudeau parce que l'on constate qu'il est plus populaire, là, il est plus à la mode. Fait qu'on va vouloir être différent, on va vouloir dire qu'il faut être plus responsable fiscalement, etc. Mais pendant ce temps-là, tu as Justin Trudeau à côté de toi. Malaise, malaise.
Mais tu sais, le bon, tu parles de course à la chefferie, oui, ça prend un chef pour le Parti libéral qui risque de perdre les élections, de toute façon.
Oui.
Fait que c'est quoi l'intérêt de se présenter là, mettons, comme chef du Parti libéral? C'est pour sauver le parti? C'est pour le... pour en prendre une pour l'équipe en se disant, bon, ben j'aurais fait ce que je peux comme chef?
C'est une bonne question. Honnêtement, c'est le travail qui attend un nouveau ou une nouvelle chef est quand même énorme. Ce n'est pas un contexte qui est idéal, c'est sûr. Par contre, c'est assez rare qu'on te donne un parti sur un plateau d'argent. Généralement, un chef va quitter sur une défaite ou dans une controverse. Des fois, une fois de temps en temps, un chef va partir, va démissionner au top. Là, je pense à Lucien Bouchard, notamment, qui avait décidé de quitter, mais c'est assez rare. D'habitude, on va récupérer comme nouveau chef un parti à reconstruire. Donc, peut-être que ça fait un peu partie du calcul des noms qui circulent présentement, de se dire qu'il va y avoir une traversée du désert. Il y a très peu de scénarios dans lesquels le Parti libéral pourrait gagner la prochaine élection. Je fais toujours attention, on ne sait jamais dans la vie.
Ça se joue sur le terrain.
Ça se joue sur le terrain. Par contre, ça fait un an et demi que les conservateurs sont de loin premiers dans les sondages. Le PLC est rendu à peu près à 17-18 donc c'est pas très probable. Ça va être un gros défi pour un nouveau chef.
Bon, je vais essayer de trouver les bons mots, là, OK? On est en onde au 91.9 dans Dallaire le matin avec Antonine Iaccarini, qui est analyste politique. La réalité, c'est que Donald Trump rentre le 20 janvier, pour un mandat solide de 4 ans. OK? Nous, de notre bord, on est comme plus chancelants actuellement.
En effet.
Bon. On doit-tu avoir si peur que ça de ce qui peut se passer avec les deux situations qui sont carrément à l'opposé?
Bien, même si on avait un gouvernement solide, populaire, qui s'entend bien avec les provinces, qu'on faisait un beau front commun, c'est pas évident là, de faire face à un adversaire. Puis c'est plate de dire adversaire, c'est notre allié, les États-Unis, c'est quand même complètement fou. Un adversaire comme Donald Trump, qui est très imprévisible, qui est très orgueilleux, là, qui dit qu'il veut nous annexer, il veut annexer toutes sortes d'affaires, le Panama, le Groenland. Donc, c'est peu importe qui on aurait comme premier ministre, comme gouvernement, ce serait compliqué. Mais là, on vient de s'ajouter des handicaps supplémentaires en ayant un gouvernement qui fonctionne parce qu'il y a le Conseil des ministres. Même s'il n'y a pas le Parlement comme tel, il y a un Conseil des ministres, mais qui a à sa tête un premier ministre qui est extrêmement affaibli. On voyait hier les réactions des premiers ministres des provinces. Je pense que c'est important quand même d'en parler parce que face à la menace des tarifs, tout l'agenda politique du pays a changé en un tweet là, de Donald Trump. Mais on voyait les premiers ministres se prendre en main et dire, nous, notre priorité absolue, c'est ça. Le temps que le gouvernement fédéral s'organise, dépêchez-vous. Mais nous, c'est sûr qu'on va défendre nos citoyens, on va défendre notre économie. On voyait le premier ministre de l'Ontario, notamment, là, qui est allé très fort.
On coupe l'électricité.
Lui, là, il dit, on répond et tout ça. On voit une province comme le Manitoba s'ouvrir un bureau aux États-Unis. Le Québec, on est habitué, on a des délégations à l'étranger, on fait des relations internationales, mais les autres provinces canadiennes, un peu moins, l'Ontario un peu, l'Alberta aussi. Mais là, le Manitoba ouvre un bureau. Sachez aussi que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, va être présente à l'inauguration du président Trump dans 2 semaines. Donc, on voit qu'il va y avoir les premiers ministres des provinces qui vont quand même occuper cette espèce de vide de leadership que M. Trudeau là, nous a laissé présentement.
Avec comme objectif, justement, de ne pas faire en sorte que ces tarifs-là entrent en vigueur.
Exact. Oui, parce que ce serait catastrophique. Mais sachez aussi que ce serait catastrophique pour les États-Unis.
Oui, ben oui, c'est pour ça que moi, je me questionne tout le temps à savoir, faut-tu vraiment avoir peur de ça? Parce qu'ils se tirent dans le pied.
Tu sais, les États à proximité là, qui sont sur notre ligne, notre frontière, là, ils dealent avec nous autres au quotidien. Là.
Bien, sur les chantiers américains, notre acier, notre aluminium, tout ça, ça va être terrible pour l'économie américaine. Par contre, oui, il faut avoir peur de ça, parce que là, on a un Donald Trump qui est encore plus craqué que la dernière fois, on s'en rappelle, et il y en a eu quand même des tarifs, même si ce n'est pas 25 %, même si ce n'est pas sur tous les produits, ça va avoir un impact important sur notre économie. Et j'aimerais quand même préciser qu'on ne s'est pas laissé beaucoup de marge de manœuvre financière au Canada, là. Les déficits, on parle 62 milliards à la mise à jour économique. On n'a pas de lousse beaucoup là, pour faire face à tout ça. Ça, c'est un peu l'héritage aussi de Justin Trudeau. Hier, on faisait un peu le bilan de son passage comme premier ministre. Ça en fait partie, là, le fait qu'il nous a laissé des déficits aussi élevés. Oui, il y a eu la pandémie. Oui, il y a eu toutes sortes de dépenses importantes, mais il n'a pas fait preuve de beaucoup de sobriété. Pensez au détaxage des sapins de Noël puis des dindes avant Noël. On aurait peut-être pu s'en passer avec le recul.
Oui. J'ai une dernière question rapide. Pendant que tu es là, tu sais, on en profite un peu. Là. Mettons là que les conservateurs sont élus. On est-tu plus en business, mettons, face à Trump pour les 4 prochaines années, ou on aurait été mieux de garder les libéraux? Ou, tu sais, est-ce qu'on a un avenir... c'est plus intéressant, mettons, avec les conservateurs, selon toi?
Sans préférence idéologique, je dirais que d'abord, un gouvernement qui est en début de mandat, il y a toujours plus une lune de miel, une popularité qui serait capable de rallier les premiers ministres des provinces. Moi, je ne sais pas comment Pierre Poilievre va travailler avec les premiers ministres des provinces. Hein. C'est un peu un mystère, c'est un point d'interrogation. On a un Pierre Poilievre qui fêterait un peu bagarreur de ruelle, là, qui s'est tranquillement transformé en premier ministre, mais je le voyais encore publier des vidéos où est-ce qu'il traite les libéraux de wacko la semaine passée, puis je me disais, oh boy, on dirait que la métamorphose en premier ministre n'est pas tout à fait terminée. Mais peu importe l'idéologie derrière ces partis-là, d'avoir un gouvernement qui aurait les coups des franges, juste penser au gouvernement Trudeau en début de mandat en 2015, c'était déjà un gouvernement qui était plus solide, qui était capable aussi d'aller renégocier l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est Chrystia Freeland, d'ailleurs, qui avait été en charge d'aller renégocier cet accord-là. Et ça avait bien été. Donc, ce n'est pas une préférence de parti comme tel, mais c'est plus une préférence de stabilité politique qui serait bénéfique pour le Canada. Donc, est-ce qu'on aurait dû avoir des élections qui sont déclenchées l'automne dernier? Ça, c'est facile, avec le recul, de dire oh, « on aurait donc dû faire ça après coup ». Oui. Puis c'est vrai qu'avoir des élections pendant que Trump entre en poste, c'est pas non plus l'idéal, mais ça serait la période d'instabilité la plus courte. Parce que là, je veux juste faire le scénario plus probable dans les prochains mois. Là.
C'est ça. Comment ça va se passer à partir du moment où les libéraux vont avoir leur chef? Là, les élections vont être déclenchées comment? Parce que là, on parle d'élections après le retour à la Chambre des communes.
Bon, premièrement, les élections pourraient quand même, en théorie, être déclenchées avant la fin de leur course. Parce que si jamais les partis d'opposition vont rencontrer la gouverneure générale, parce qu'on a un drôle de système. Hein. On a une gouverneure générale qui est en fait notre chef d'État au Canada, on l'oublie. Si les partis d'opposition convainquaient la gouverneure générale de faire tomber le gouvernement pour un cas de force majeure, ça pourrait toujours arriver. Ça m'étonnerait, étant donné que madame est nommée par Justin Trudeau. Ce serait un petit peu étonnant, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, le 24 mars, on revient, le Parlement rouvre, on fait un discours du trône, il va y avoir éventuellement un budget. Au mois de mars, avril, d'habitude, on a un budget. Donc là, il y a des votes qui sont de facto des votes de confiance. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut faire tomber le gouvernement. Par contre, ces votes-là, on ne sait jamais exactement à quel moment ils vont arriver. Peut-être même que les libéraux n'auront pas encore réussi à avoir un chef. Parce que là, je ne connais pas, moi, encore les règles de la course à la chefferie libérale. D'habitude, une course à la chefferie, ça dure un an, là, ouais. En passant. Là, fait que ça va être express. Moi, je pensais qu'il allait arriver avec une solution plus courte, comme par exemple le caucus vote pour le chef. C'est des choses qui peuvent se faire des fois. Mais il semble que ça va être une vraie course à la chefferie, votée par... Qui, je ne sais pas trop. Est-ce que ça va être les membres ou c'est une primaire ouverte comme c'était dans le passé où n'importe qui pouvait voter? Ce qui est un petit peu étrange compte tenu qu'on va voter pour le premier ministre. Donc, ça serait un peu bizarre que n'importe qui puisse voter. Mais là, une fois qu'ils sont revenus, on tombe en élection peut-être? Ou, là, je fais toutes sortes d'hypothèses, ou le NPD, qui a soutenu le gouvernement pendant si longtemps, pourrait dire « Ah, ben c'est un nouveau chef, fait que tu sais, ça change la donne pour nous. Donc, on va continuer d'appuyer le gouvernement jusqu'à l'automne prochain, peut-être.
Elle s'appelle Antonine Iaccarini. Elle est analyste politique. On a fait le tour. Vous êtes supposé être au courant plus qu'il y a une dizaine de minutes. Merci pour ton temps. Tu le sais qu'on t'apprécie énormément.
Merci à vous.
God!